I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre au bébé de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de famille qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels tout spécialisés dans le domaine qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissant de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Dans l'épisode précédent avec Juliette, les troubles de l'oralité de son premier enfant ont été évoqués à différentes reprises. Comme cette problématique est très fréquente et qu'on l'a déjà en partie abordée avec Marie Ruffier-Bourdet dans les épisodes autour de la diversification, 42 et 68 particulièrement, j'ai eu envie de creuser le sujet avec Juliette, savoir comment se passe le quotidien avec un enfant qui mange peu, voire très peu, et est très sélectif dans le choix des aliments. Comment s'est-elle rendue compte qu'il y avait un problème? Comment s'y est-elle prise? Où a-t-elle pris de l'aide? Qu'est-ce qu'elle a pu mettre en place à la maison lors des repas pour que son fils mange? Un épisode court pour faire le focus sur cette partie de l'histoire de Juliette. Parce que les problématiques de succion peuvent être associées aux troubles de l'oralité, il me semblait important de développer. Je vous souhaite une belle écoute. Donc Juliette, on s'est parlé la semaine dernière, on va dire, ou il y a 2 semaines, j'en sais rien, on verra, pour que tu nous racontes ton histoire d'allaitement et est ressorti ce trouble de l'oralité dont tu parles pour ton fils. J'aurais aimé qu'on revienne rapidement là-dessus pour que tu nous racontes un peu comment ça s'est matérialisé chez vous, quels impacts ça a eu et quelles solutions vous trouvez au quotidien pour que ça se passe le mieux possible et que ton fils puisse manger. Tu nous disais, en fait, tout ça a commencé très tôt puisque dès le démarrage, l'allaitement n'a pas été facile, finalement.
Oui.
Que ce bébé avait du mal à bien téter, il te faisait mal. Et puis qu'en fait, arrivé à la diversification, il s'est mis à pas tellement bien manger. Alors déjà, c'était un bébé qui tétait énormément.
Oui, il tétait. Alors, c'est un bébé qui avait un reflux.
D'accord.
Voilà. Il avait un reflux interne, donc il tétait beaucoup pour se soulager, je pense, de ce reflux. Il tétait peut-être beaucoup aussi parce qu'il était peut-être pas très efficace au sein. Ça, je sais pas trop. Et il tétait beaucoup parce que globalement, c'est un petit garçon qui est assez anxieux et qui, je pense, se rassurait beaucoup avec le sein. Donc, quand il était bébé, il tétait 12-14 fois par jour, c'était classique. Sauf que ce nombre de tétés n'a pas diminué vraiment avec le temps, et c'est vrai qu'à 18 mois, il tétait encore 10 fois par jour, 12 fois par jour. Ouais. Et effectivement, à 4 mois et demi, je pense, on s'est dit on va commencer la diversification. Et ça ne l'intéressait pas du tout. C'est-à-dire que il ouvrait pas la bouche.
Il regardait ailleurs.
Ouais, vraiment, il prenait une cuillère et puis c'était fini, quoi. Donc, au début, on s'est dit, il n'est pas prêt, Après tout, avant c'était 6 mois les recommandations. On attend un peu, on fait une pause de 2-3 semaines, on réessaye. Et en fait, bah, ils mangent à chaque fois 2 cuillères, 3 cuillères, et puis ils s'arrêtent là. Et les quantités n'augmentent pas, 7 mois, 8 mois, 9 mois, ça n'augmente pas.
T'as l'impression qu'il faut le forcer déjà à manger ? T'as l'impression que c'est un peu du forcing de lui filer ses quelques cuillères ou ça...
Moi, je le force pas du tout. Donc, dès qu'il montre qu'il en veut pas ou plus, j'arrête. Quoi. Je me dis, bah, je vais pas le traumatiser, je le force pas. Donc, non, les 2-3 cuillères, ça va. Je sens qu'il est quand même un petit peu curieux, mais qu'il y a un truc que...
Ouais.
Voilà, bon, pas plus ça lui suffit, quoi. Ouais, pas plus que ça. Donc après, bah, tout le monde donne un peu son avis. Hein.
Ah là là.
Oh, bah, moi, ma belle-mère qui me dit bah, que mon mari, c'était pareil, il mangeait rien quand il était petit, que ça va venir. La nounou, donc il commence la nounou quand il a 9 mois, elle me dit non, mais avec moi, il va manger, vous inquiétez pas. En fait, bah, il ne mange pas non plus avec la nounou. Peut-être un peu plus à certains repas, mais vraiment... Et puis, on commence à être suivi à l'hôpital parce que sa courbe est vraiment pas terrible du tout. Donc, on fait les examens pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis physiques.
Mmh, bien sûr, de croissance.
Il n'y a rien. Mmh. Ouais. Et puis, on me dit que c'est à cause de l'allaitement, qu'il est tellement accro au sein qu'en fait, la nourriture solide ne l'intéresse pas.
Oui, alors qu'en fait, même au sein, s'il tète autant, c'est qu'il prend juste ce qu'il faut, quoi. Mais
Ouais. En fait, c'est ça. Il est un peu en mode survie. On se dit avec mon mari, en fait, il prend vraiment ce qu'il lui faut pour se maintenir. Enfin,
ouais.
Voilà, genre le minimum, quoi. Et à 18 mois, donc j'arrête d'allaiter parce qu'à force de... Voilà, les médecins me disent que c'est à cause de l'allaitement. Je finis par craquer en me disant, OK, on va bien voir. Ça se trouve, ils ont raison. Et en fait, ça change rien. Et voilà, et bah en fait, après c'est une espèce d'errance pendant très longtemps, où en fait on comprend pas, on se dit bah c'est juste, c'est pas son truc. Donc on essaye tout, toutes les textures, tous les machins.
Oui,
voilà.
Parce que du coup, à 18 mois, il est toujours avec ses cuillères de purée, ses quelques cuillères de purée, ou vous êtes passé à des morceaux ?
On est passé à des morceaux, on a essayé, même petit, on a essayé la DME, en fait on a un peu tout essayé, quoi, ouais. Et donc, à 18 mois, je pense qu'il mange plus ou moins comme nous. Mmh. Enfin, on lui met, en tout cas, dans son assiette, voilà. Mais il picore, quoi. Et puis, il sort de table, enfin...
Ouais, donc, c'est pas tellement un truc où il veut pas goûter, où il y a des textures qui l'emmerdent, franchement, etc. C'est plutôt que, peu importe ce qu'on lui propose, les quantités vont être très petites.
Il y a plusieurs choses. Ouais. Il y a plusieurs choses. Alors après, les troubles de l'oralité, c'est très variable d'un enfant à l'autre. Chez nous, il y a plusieurs choses. Il y a les quantités.
Ouais.
Donc effectivement, un appétit de moineau. Mm-hmm. On mange très peu. Certaines textures qui lui posent vraiment problème.
D'accord,
c'est-à-dire qu'il est comme la viande, par exemple, où en fait, il met en bouche, il dit c'est bon, il mâche et il recrache. En fait, il n'est pas capable d'avaler certaines textures.
D'accord.
La pomme, par exemple, c'est pareil. Il croque une pomme et il va la recracher.
D'accord.
Et c'est pas le goût qui le gêne, en fait, c'est la texture. D'accord. Il est très sensible à la chaleur. Donc souvent, c'est trop chaud pour lui.
D'accord.
Alors que nous, on goûte et en fait, on trouve que c'est tiède. Mmh. Et lui, ça le brûle.
D'accord.
Voilà. Quand il était petit, il adorait les trucs très qui avait énormément de goût, donc il mangeait des trucs indiens, il mangeait du chocolat noir, il buvait de l'eau gazeuse, enfin il avait des goûts voilà. Ouais. Aujourd'hui c'est plus du tout le cas, mais on trouvait ça un peu étrange aussi. Il avait plein de petites particularités comme ça où on se disait c'est quand même, enfin voilà, c'est bizarre. Et en fait c'est les réseaux sociaux qui m'ont encore une fois enfin, voilà, qui sont capables du meilleur comme du pire. Mais effectivement, un jour, je suis tombée sur un post, je ne sais pas comment, mais qui parlait de troubles de l'oralité alimentaire. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a peut-être un an, je ne sais pas. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi ce truc ? Voilà, j'ai creusé et c'est là où je me suis rendu compte qu'il cochait en fait toutes les cases. Et là, ça m'a soulagée parce que je me suis dit, OK, ça y est, on a mis un mot sur le truc, on va pouvoir... on va pouvoir essayer de mettre en place des solutions. J'ai compris pas mal de comportements qui ne sont pas liés à la nourriture, mais qui rentrent en fait, qui sont assez typiques. C'est-à-dire que tout petit, il ne voulait pas toucher, même maintenant, le sable par exemple, ouais. Ça le gêne. Quand il était petit, quand on le mettait sur de la pelouse, il ne pouvait pas toucher. Donc il marchait, mais comme il rampait sur ses coudes et ses genoux pour pas que ses mains et ses pieds touchent la pelouse.
Ouais, enfin, voilà, fait, sensibilité est affectée, pas que dans la bouche.
Exactement. Mmh. En fait, il a vraiment une hypersensorialité.
Sensibilité
sensorielle qui touche l'odorat, même le bruit. Enfin voilà, il est globalement sensible.
Mmh. Ok.
À fond. Donc,
vous avez pu mettre des choses en place après que tu découvres ça?
Ouais, du coup, j'ai acheté des bouquins d'une orthophoniste qui a sorti des petits guides pratiques. On a fait pas mal d'exercices, notamment de patouille. Ouais. Je lui ai acheté du slime, par exemple. Il était incapable d'approcher son doigt du slime, là, ce truc visqueux.
C'est quoi les petits
Maintenant,
livres
il a...
que t'as acheté?
Alors, c'est le compte Instagram, c'est Parents Équipés.
Ah bah oui, bien sûr.
Ouais, voilà. Et elle a fait deux petits guides, un pour le 0-3 ans, je crois, et puis après, à partir de 4 ans, bon, j'ai acheté les deux et on a fait pas mal d'activités. T'as du sable, tu sais, du sable magique, là, je sais pas comment ils appellent ça. On a fait des activités où on a mis ces dinosaures en plastique dans du ketchup, dans du chocolat, du fromage et tout. Ouais, complet. Ensuite, il a donné le bain. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Mais pour vraiment le faire, qu'il accepte en fait de toucher, de sentir. Parce que les odeurs pouvaient le gêner affreusement. C'est-à-dire si il était à table avec nous et qu'on ramenait, je sais pas... par exemple, il déteste les œufs, l'odeur des œufs. Donc, si nous, on se faisait un œuf et qu'on le mettait à table, il fallait qu'il quitte la table. Ça, voilà. Et ce qu'avant, je pense, à une autre époque, on aurait pris pour des caprices et tout.
Mais encore aujourd'hui. Hein.
Oui, encore. Oui, voilà. Moi, je sais qu'en fait, non, vraiment, pour lui, c'est... C'est insupportable. Donc, on a fait pas mal de patouilles. On a vu une orthophoniste aussi, avec laquelle on a fait quelques séances.
Et alors, comment ça s'est amélioré?
Alors, je sais pas ce qui a aidé, mais en tout cas, un petit peu à la fois, il a accepté de goûter des nouveaux trucs.
Ouais, là où avant, ça aurait pas été possible.
Ouais, pendant très longtemps, il voulait plus goûter de nouvelles choses. Des choses qu'il aimait avant, il voulait plus y toucher. Enfin, il y a aussi des périodes, c'est assez... c'est un peu les montagnes russes. Des fois, il fait des gros progrès, puis des fois...
En fonction de comment il va, s'il est fatigué et tout ça aussi.
Exactement,
En fait, on est sur des troubles de la sensibilité, sensorialité, donc du coup, imaginez-vous que tout ça, c'est de l'information neurologique, en fait, qui est un peu erronée, perturbée. Donc si vous êtes fatigué, enfin... Voilà, enfin, tous les seuils de déclenchement, ça baisse, quoi.
Ouais, exactement. Donc là, typiquement, il vient d'avoir une semaine de grippe.
Et voilà,
on est en rechute totale. Il veut rien manger ou que des gâteaux, enfin voilà. Mais du coup, moi je suis aussi dans un lâcher prise total par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il mange un peu ce qu'il veut. J'ai renoncé à lui faire des trucs équilibrés, en fait.
Oui, faut qu'il mange.
Faut qu'il mange, voilà. Donc je lui fais ses aliments copains, ce qu'on appelle les aliments copains, donc c'est les trucs... pendant un moment, c'était des knackis, donc ils mangeaient des knackis tous les jours. Franchement, mais...
Ça marchait pas, du boucher. C'était des knackis.
Non, c'était les knackis, ouais. Ah bah, si ça a pas la même forme ou la même couleur, ou voilà, ça marche pas. Les pâtes.
Les pâtes, ça marche. Les frites, ça marche, non?
Alors, non, les frites, c'est très récent. Il a mangé ses premières frites cet été.
Ah, c'est vrai?
Ouais. Ah ouais, parce que moi je me disais les nuggets, enfin tu sais, je sais pas, les trucs que tous les enfants aiment bien.
Oui, en général, les trucs, on appelle ça les textures croustilles fondantes, tu vois, ça croustille et après c'est facile à déglutir, en général, ça marche bien dans les troubles de l'oralité.
Les frites, non, c'est assez récent, et encore, il en mange trois, quoi.
Ouais, d'accord.
On est toujours sur des petites quantités. Mais du coup, il grignote beaucoup, enfin, mais c'est un deuil, c'est peut-être un grand mot, mais... voilà, quand j'étais enceinte, je me disais, mon fils, je vais lui faire des trucs, des petits légumes, maison, du bio, il va manger super équilibré, tout ça. Et puis en fait, Il adore les biscuits Milka ou chocolat blanc gaufrette, là, bah du coup, il en mange.
Ouais, lâcher prise. Voilà. Hein, lâcher prise.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ah bah complet. Et parce que bah il faut qu'il ait ses calories quand même.
Ouais, bah bien sûr. Oui, il faut qu'il mange.
Donc voilà, donc les aliments copains à fond, et puis j'ai acheté, alors là ça c'est le truc, c'est un business aussi, mais j'ai acheté une assiette en fait, où il y a une espèce de petite récompense à la fin,
ouais,
et cachée, là. Ouais voilà exactement, donc ça le fait pas forcément manger plus, mais ça le fait venir à table déjà, ça lui donne envie de venir à table, parce qu'il sait qu'il va avoir sa petite surprise, et c'est déjà pas mal. Parce que c'est aussi une bataille pour le faire, pour qu'il vienne à table.
Ah oui,
en fait,
bien sûr, c'est pas un moment agréable pour lui. Ouais.
Exactement, avec des gros troubles de comportement. C'est-à-dire qu'il peut faire des crises. À un moment, il jetait son assiette. C'était vraiment trop, il n'arrivait pas à gérer. Là, c'est plus en ce moment, il va venir à table et s'il y a un truc qui le gêne, le bloque, ou je sais pas, il va dire. « Je suis fatiguée !» Et il va se devenir tout mou et poser sa tête sur la table pour un peu, je pense, c'est éviter. Une façon d'éviter, de fuir un peu la situation, quoi. Donc voilà, donc c'est un combat un peu quotidien.
Ouais, le trouble de l'oralité, c'est vraiment au quotidien, plusieurs fois par jour.
Ouais. C'est pas facile. C'est chaque repas, chaque... Ouais.
Je pense que c'est important d'en parler parce que, bon, là, on parle d'un trouble de l'oralité bien installé et puis qui, en fait, a toujours été... Mais les enfants, à un moment ou à un autre, passent par une phase de régression avec la nourriture.
Oui.
Et je peux en parler, j'ai un gamin qui a très très bien mangé au démarrage. Et puis voilà, en ce moment, s'il regarde un potiron, une patate douce et des trucs comme ça, c'est même pas envisageable. Hier soir, je lui ai fait le chemin dans l'assiette, machin, avec les trucs. Oui. Et voilà, et parce qu'il n'a pas de trouble alimentaire vraiment au démarrage, il me l'a mangé, ma patate douce, avec un petit fromage en plus dessus et un peu de sauce. Mais il m'a regardé genre... Bon, et voilà, et je lui dis, bah écoute, c'est super que t'aies réussi à goûter, maintenant j'ai compris, t'aimes pas ça, on retentera plus tard, quand tu seras plus grand, sûrement t'aimeras. Mais c'est, il y a quand même, quoi qu'il arrive, dans la vie d'un enfant, des phases de régression, et rentrer en opposition avec, c'est vrai que, voilà, toujours leur proposer de regoûter, c'est important, rentrer en opposition avec ne fait plus de mal que de bien, et je pense que c'est important de le répéter, et de se dire que... Voilà, l'important à la fin, c'est qu'ils mangent et puis qu'ils ne gardent pas une expérience trop désagréable de la nourriture parce que sinon, beaucoup ça installe le truc sur le long terme.
Ouais. Et nous, ce qu'on a pas mal fait aussi, c'est qu'on ne force jamais à goûter. Mmh. En fait, les orthophonistes disent goûter, c'est la dernière étape.
Ouais.
Et voilà. Et avant, il y a... mais il y a plein d'étapes qui sont... Quand je dis ça à des gens qui ne sont pas concernés, ils me regardent genre, mais... oh là là, c'est n'importe quoi. Mais en l'occurrence, chez nous, ça marche bien. La première étape, c'est d'accepter que l'aliment soit présent à table.
Déjà, ouais.
Voilà. Puis qu'il soit présent dans l'assiette.
Mmh. De le regarder.
De le regarder, de le toucher avec un couvert. Mmh. Ou un instrument, peu importe.
Le toucher avec le doigt.
Appuie, le toucher avec le doigt.
Le sentir.
Le sentir, lui faire un bisou.
Le croquer, sans le manger.
Voilà, pouvoir recracher. Mm. Voilà, proposer toujours. Nous, c'est toujours, si tu veux le mettre dans la bouche et que vraiment ça te gêne, tu craches, c'est pas grave. Ouais. Voilà. Et la dernière étape, c'est vraiment de goûter et éventuellement d'avaler, voilà. Et on peut être sur des... J'ai aussi consulté une ergothérapeute, Ergomom, qui est aussi assez connue, voilà, qui disait, en fait, quand on veut faire goûter un enfant, souvent, on propose des petits morceaux, mais qui sont presque déjà trop gros. Et en fait, la première étape, c'est vraiment une miette. Mais c'est presque comme de la désensibilisation qu'on peut faire avec une allergie, où en fait, on va prendre une goutte tous les jours. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est une sorte de désensibilisation à la nourriture.
Ouais.
Et ça marche bien avec mon fils, en tout cas.
Pour qui
je pense que déjà, ça enlève la pression.
Oui, c'est ça.
Enlève la pression, il faut que tu goûtes.
Bien sûr.
Voilà.
Oui, parce que goûter, si vous aimez pas, je sais pas moi, qu'est-ce qui est dégueulasse, les choux de Bruxelles. Si vous aimez pas les choux de Bruxelles et qu'on vous demande d'en manger trois d'un coup, ou si on vous demande de prendre un quart, parce que quand même ceux-là ils sont bons, allez essaye, goûte, c'est pas pareil.
Mm. Voilà. Et voilà, mais du coup, nous, je pense le fait de diminuer ce stress et de lui dire, il y a pas d'obligation, mais juste, voilà, essaye, puis on fait ça sous forme de jeu et tout.
Ça demande une patience à toute épreuve. Hein.
Ouais, mais c'est dur en plus. Peut-être aussi c'est le fait qu'on soit en France, mais la nourriture c'est quand même un truc un peu, ça, ouais, c'est sacré, voilà. Et puis bah t'as envie que ton enfant mange parce que forcément tu te dis t'as envie qu'ils soient en bonne santé, c'est important qu'ils grandissent et tout.
Ouais.
Et donc c'est hyper hyper stressant et c'est vrai que des fois on s'énerve, on est humain. Hein, mais...
Bien sûr.
Parce que des fois, on est là, mais c'est pas possible quand même. Il fait exprès. Non, il fait pas exprès. Ouais. Mais voilà, on a aussi nos trucs. On est fatigué. Donc, on essaye de se dire, allez. Et moi, j'ai lâché prise. Des fois, il me dit, je veux manger avec un dessin animé. Je sais qu'il faut pas. Mais parfois, c'est la seule façon pour lui de manger. Parce que ça le coupe, en fait, de ses sensations. Mmh. Il va me finir son assiette. Donc, je sais, voilà, les parents... qui sont pas concernés vont se dire oh là là mon Dieu mais quelle mauvaise mère. mais voilà, il met son dessin animé, il termine son assiette, je me dis bon bah au moins il a mangé quoi.
Mais oui, moi hier soir sa patate douce il l'a mangé en faisant un Lego en même temps.
Ouais,
ah oui, parce que sinon il me l'aurait même pas goûté.
Ouais, en fait c'est ça, c'est scouper un petit peu de
Donc du coup si j'ai une dernière question, est-ce que c'était un bébé qui mettait des choses à la bouche en général ou qui investiguait pas trop sa bouche, tu vois?
Bah, il mettait un peu... Alors, pas autant que ma fille. Ouais, là, pareil, j'ai la comparaison maintenant. Mais il mettait quand même un peu à la bouche. C'était vraiment plus...
Pas l'alimentaire.
L'alimentaire, pas tellement.
Ouais.
Mais il mettait des jouets quand il faisait ses dents, etc. Et voilà, c'était pas... C'est pas forcément un signe. Ça peut... Je lisais, parce que je suis sur un groupe Facebook de parents qui ont des enfants avec des troubles de l'oralité, ça peut aller très très loin. Il y a des enfants qui sont sondés, qui sont nourris que par sonde parce que vraiment ils peuvent rien mettre dans la bouche. Et là, il y a une maman qui disait, moi mon fils, il a une hyposensibilité. Et donc à l'inverse, lui, il mettait tout dans la bouche parce qu'il avait besoin, il sentait rien.
D'aller chercher les sensations.
Voilà. Et donc un médecin lui avait dit, bah non, il a pas de troubles de l'oralité, il met dans la bouche. Mais en fait, si, c'est juste qu'il y a plein de formes, plein de formes différentes.
Ouais. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous conseille d'écouter ou de réécouter l'épisode 25 avec Marie Ruffier-Bourdet, donc Ergomems, dont Juliette vient de vous parler, où on avait parlé hypo-hypersensibilité et allaitement. Et puis après, on avait fait des épisodes avec Marie aussi sur la diversification. Je crois que c'est autour du 42, quelque chose comme ça. Enfin, vous retrouverez. Et puis d'autres sur Mon bébé ne veut pas être diversifié. Enfin, un autre sur Mon bébé ne veut pas être diversifié, où il y a déjà quelques tips. Et puis je pense que là, ce sera l'occasion peut-être de demander... je ne sais plus son prénom, à parents équipés.
J'ai un trou aussi.
Je pense que ça
sera... connaît les pseudos, j'ai son livre là, en plus. C'est Marie.
C'est
Marie Poirette.
Ah, c'est Marie,
voilà, ouais, j'ai son bouquin là.
Ce sera peut-être l'occasion de demander à l'autre Marie,
on le voit pas.
Qui est orthophoniste, et c'est quand même pas tout à fait le même métier, donc il y aura des subtilités. Ouais. Et je pense que ce sera l'occasion de lui demander ces quelques tips à elle pour démarrer quand on voit que notre bébé présente des signes comme ça, pour pas s'enliser dedans, parce que plus on consulte tôt, plus vite ça se résout.
Ouais.
Et toi, en tout cas, t'as consulté relativement tardivement, mais il y a quand même plein de choses qui évoluent, et c'est super.
Ouais, parce qu'en fait, personne, aucun médecin, on en a vu des médecins pour ces problèmes, on disait, ils mangent pas, ça m'intéresse pas, aucun médecin nous a parlé de ce trouble, en fait.
Oui, donc c'est une errance médicale.
Ouais. Et j'avais vu une première consultante en allaitement pour mon fils quand il avait 6 mois, je l'ai revue il y a pas longtemps, et je lui ai dit, en fait, on était passé à côté de ça. Et elle m'a dit, c'est vrai que maintenant, à l'époque, en fait, c'était il y a 4 ans, peut-être que c'était moins... On en parlait beaucoup moins. Et elle m'a dit, c'est vrai que maintenant, j'y pense beaucoup plus facilement quand on vient me consulter pour des difficultés d'allaitement, en fait. C'est aussi une possibilité, ouais.
Ok. Bon, merci beaucoup de nous avoir raconté ça. Je voulais faire un petit focus là-dessus parce que On en parle, mais sinon, c'est un mot très abstrait, trouble de l'oralité. Et voilà, c'était cool d'avoir ton expérience là-dessus pour avoir voilà, des signes qui ne sont que ceux que ton fils a présentés. Et les troubles de l'oralité voilà, sont un panel extrêmement large de choses qui peuvent se passer. Donc, mais c'est intéressant de s'y pencher.
Ouais, bah écoute, si ça peut aider.
Je suis sûre que ça aidera.
Ouais.
Merci beaucoup, Juliette, d'avoir raconté ça aussi. Et puis, à très bientôt.
À bientôt, merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Et si toi aussi ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu te rends sur mon site internet milchecker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur milchecker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U.com, IG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.